France Culture.
L'histoire dite économique se heurte à des préjugés, elle n'est pas l'histoire noble. Noble ou non noble, ou moins noble qu'une autre, l'histoire économique n'en pose pas moins tous les problèmes inhérents à notre métier. Elle est l'histoire entière des hommes. Regardée d'un certain point de vue, elle est à la fois l'histoire de ceux que l'on considère comme les grands acteurs, l'histoire des grands événements, l'histoire de la conjoncture et des crises, et enfin l'histoire massive et structurale évoluant lentement au fil de la longue durée. C'est à cette histoire massive et structurelle que Fernand Braudel, historien qu'il est à peine besoin de présenter tant son nom a marqué l'histoire de l'histoire, a consacré une grande partie de sa vie et de son œuvre. Né en 1902 et mort en 1985, éminent directeur des Annales, Braudel forge des concepts nouveaux comme celui entre autres de l'économie monde et inscrit ses travaux dans le temps long, très long, pour comprendre ce qui fait bouger les lignes et ce qui structure fondamentalement la société. Et pour cela, il entend cerner l'immense royaume de l'habituel, du routinier, grand absent de l'histoire pour reprendre ses mots, et pour comprendre ce qui se situe au-dessus et en dessous de lui. Dans cette démarche, l'économie, ou plutôt les économies, comme il le rappelle régulièrement, joue un rôle fondamental. Sa vision de la façon dont espace, hommes et marchandises ont contribué à faire naître l'économie de marché, à distinguer du capitalisme, renouvelle l'approche qui faisait école jusque-là. C'est donc à un Fernand Braudel, penseur de l'économie d'une certaine manière, que nous consacrons cet épisode jusqu'à 15h, une émission préparée par Paul Weinarter, programmée par Bruno Barada et mise en onde par Jordan Fuentes.
Les sciences sociales, nos voisines, sont toutes en pleine jeunesse et en pleine force, de l'ethnographie à la géographie humaine, de l'économie à l'anthropologie, de la démographie à la sociologie. Mais l'histoire a sa place dans ce large concert. Elle est même avec la sociologie, la seule discipline qui essaie de reconstituer l'ensemble du spectacle de l'homme, la seule entreprise à visée totalitaire, l'histoire plutôt dirigée vers l'immense pays des morts, la sociologie vers le monde des vivants. Mais la limite est fragile entre le monde des vivants et le monde des morts. Elle se déplace à chaque instant, il n'y a pas de vraie séparation entre passé et présent. L'histoire et la sociologie devraient donc toujours collaborer si elles se heurtent souvent comme deux visions différentes du monde. Les calculs des économistes ou des démographes annoncent souvent à l'avance les premiers points de la route où nous nous engageons. Ils prédisent ou essaient de prédire l'avenir. L'historien, aux prises avec le passé, sait par avance, lui, quels seront les événements importants. Entendez ceux qui auront des suites, une progéniture de conséquences. Le recul du temps nous favorise toujours et nous réserve, dans le domaine traditionnel de notre métier, des facilités singulières.
La voix de Fernand Braudel, diffusée en 1955 sur la chaîne nationale. Arnaud Esquiré, bonjour.
Bonjour.
La sociologie comme monde des vivants, l'histoire comme celui des morts, c'est une distinction que Braudel a voulu d'une certaine manière abolir. Vous êtes vous-même sociologue, directeur de recherche au CNRS. C'est cette volonté d'inscrire l'histoire dans le présent, dans une certaine actualité et également en complément, entre autres, de la sociologie, on l'entendait, mais aussi de l'économie et donc avec, de fait, ces deux disciplines qui construit aussi la vision de Fernand Braudel. Est-ce que c'est cela qui le distingue en tant qu'historien?
Fernand Braudel avait une conception extrêmement stimulante et importante d'association, on peut dire, des sciences humaines et sociales. Alors, en ce qui concerne la sociologie, à l'époque où il est, son regard était tourné vers les sociologues du passé, notamment un sociologue économique qui s'appelait François Simian et un sociologue qu'on ne lit plus beaucoup, qui s'appelle Gurvitch, et il avait en face de lui Raymond Aron et le jeune Pierre Bourdieu, qui était recruté à l'EHESS. Alors, sur la distinction, si vous voulez, entre histoire et sociologie, d'abord, il isole dans ce qu'on a entendu ces deux disciplines en considérant qu'elles peuvent en quelque sorte totaliser les autres, et je pense que c'est ce sur quoi en fait il faut mettre l'accent, c'est cet aspect global dans la démarche, et évidemment qui nous paraît aujourd'hui peut-être plus difficile à mettre en œuvre, pour une raison qui est que à partir des années 1980 et progressivement, il y a eu une spécialisation de plus en plus grande à l'intérieur des disciplines. Ce n'est pas propre à la sociologie médecine et aux autres disciplines. Et donc le fait de créer des passerelles ou des liens avec une vue plus plus globale est peut-être aujourd'hui plus difficile, même si certains auteurs ou certaines autrices essaie de le faire.
Plus difficile et donc potentiellement plus rare, et nous rentrerons en profondeur sur les raisons aussi peut-être de cette spécialisation que vous évoquiez à l'instant, Arnaud Esquéré, ce qui fait de fait de Fernand Braudel peut-être un personnage plus atypique de notre point de vue aujourd'hui en 2025. Jean-Yves Grenier, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors dans cette émission, je le rappelle, hein, et comme tous les jeudis, on consacre cette l'heure qui vient aux grands penseurs de l'économie. Alors Fernand Braudel est bien sûr historien, on l'a dit, il a marqué durablement et fondamentalement cette discipline, et nous allons voir comment. Mais peut-être qu'il est aussi, et c'est vous qui allez nous le dire si on a raison de le dire, mais peut-être qu'il peut être qualifié aussi d'historien de l'économie. Est-ce qu'on est en raison de dire ça, Jean-Yves Grenier ?
Ah oui, tout à fait, sachant qu'il aurait... C'était un penseur du global, donc de l'histoire dans toutes ses composantes, mais il accordait une place tout à fait essentielle à l'économie. Ça, on peut l'expliquer de beaucoup de manières, mais en particulier dans le milieu intellectuel dans lequel il a grandi, il y a un fort renouvellement de l'histoire dans les années 30. Hein, vous avez dit qu'il était né en 1902, donc c'est vraiment un moment, c'est des périodes très importantes dans sa prise de contact avec l'histoire et l'historiographie. Et l'histoire économique est un des domaines essentiels. Hein. Vous avez parlé des annales qui ont été fondées en 1929 par son maître et ami Lucien Febvre. Et les annales sont d'abord les annales d'histoire économique et sociale. Au même moment, on a une grande revue allemande, les Filterjahrschrift, qui sont créées dans le domaine de l'histoire économique. On a le Journal of Economic History. Enfin, l'histoire économique devient un élément central dans la réflexion des historiens. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas essayer de joindre tout un ensemble de domaines, comme la sociologie et l'histoire sociale, qui joue un rôle très important dans sa définition du capitalisme. Mais on peut dire que l'économie est vraiment au cœur de sa réflexion.
Jean-Yves Grenier, vous êtes vous-même historien de l'économie. On disait à l'instant avec Arnaud Esquéré qu'il était plus rare de trouver des profils qui auraient échappé à une forme de spécialisation. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS. On vous doit plusieurs ouvrages, dont l'économie d'ancien régime, un monde de l'échange et de l'incertitude, et une histoire de la pensée économique et politique de la France d'ancien régime. Dans quelle mesure peut-on dire que vous-même, vous avez marché dans les pas de Fernand Braudel dans votre démarche, et qui, on le voit bien au titre que je viens d'énoncer, lit de fait histoire et économie. En somme, qu'est-ce qu'être braudélien dans l'absolu ?
Il y a être braudélien de façon générale
selon Jean-Yves Grenier.
Mon rapport à Fernand Braudel, c'est un rapport qui est fort, parce que tout historien, et pas seulement français, a lu et s'est confronté à Fernand Braudel. En même temps, on peut dire que Fernand Braudel n'a pas véritablement d'héritier intellectuel. C'est une œuvre qui n'est pas destinée à se reproduire. À la différence, par exemple, de celle d'Ernest Labrousse, hein, qui est un peu son alter ego dans le domaine de l'histoire économique, qui lui, au contraire, a inventé une méthode, la méthode labroussienne, qui va donner lieu à l'histoire quantitative et à tout un ensemble de thèses qui va vraiment marquer l'historiographie française des années 60 et 70 en utilisant les méthodes de Labrousse. Il n'y a pas de méthode braudelienne.
Ce n'est pas son intention, pas son ambition.
C'est absolument pas son ambition. Je pense qu'au contraire, il avait un certain sens de l'unicité de son travail, hein, qui est effectivement... Donc on peut difficilement être un héritier qui reproduit l'œuvre. Par contre, on peut être extrêmement impressionné par des tas de choses. Moi, personnellement, c'est sa tentative de définition très particulière du capitalisme. Je travaille sur le problème du capitalisme dans la longue durée, et Braudel est vraiment un éclairage encore aujourd'hui tout à fait fondamental.
On va revenir sur cette définition là du capitalisme qui effectivement est fondamentale dans son œuvre et dans sa pensée aussi. Arnaud Esquéré, en ce qui vous concerne, c'est votre ouvrage rédigé à quatre mains avec Luc Boltanski, intitulé « Enrichissement, une critique de la marchandise » paru chez Gallimard en 2017, qui assume une sorte de forme de filiation avec Braudel. Son nom apparaît à plusieurs reprises dans votre ouvrage. C'est un ouvrage qui, et je vous cite là, se saisit du capitalisme sous le rapport du commerce, et ce sur le temps assez long également, plusieurs siècles. Est-ce que c'est là être braudélien ? Est-ce que vous-même vous considérez comme braudélien ? Et peut-être nous dire en quoi ça pourrait constituer que d'être braudélien ?
Alors, il faut peut-être dire que, disons, en réaction, pas seulement en réaction, mais disons par différence avec cette histoire globale, on a pu envisager que ça soit en histoire, mais je suis pas historien, mais ou en sociologie, des approches qui sont des approches plus micro, comme on a pu avoir la micro-histoire avec par exemple Carlo Ginzburg, et en sociologie ce qu'on a pu appeler la sociologie pragmatique, et qui se focalise sur des situations très particulières et sur des individus individus, etc. Et si vous voulez reprendre ou s'inspirer de Braudel pour un sociologue et le faire dans un travail de sociologie comme Luc Boltanski et moi l'avons fait, c'est renouer ou proposer une sociologie qui reprend un discours historique où s'inscrit en fait des grands mouvements de la société dans l'histoire, hein, comme quelqu'un comme Max Weber, il y a une tradition allemande qui est beaucoup plus forte en ce domaine. Et ce que nous avons cherché à faire avec Luc Boltanski, c'est, si vous voulez, de nouer à la fois cette histoire et ces grands mouvements, ou en tout cas, c'est à la fois la structure, on va dire, mais une structure des formes sociales, qu'on articule avec une autre forme de structuralisme qui, lui, venait de Claude Lévi-Strauss, qui est un structuralisme, on va dire, davantage tourné vers des formes cognitives, et qu'on a essayé d'articuler vers une pragmatique, c'est-à-dire vers l'analyse de situations plus concrètes. Voilà, c'est l'ensemble qu'on a essayé de faire, et Braudel a été tout à fait déterminant dans l'écriture de cet ouvrage sur le capitalisme, sur un certain type de capitalisme. Parce que, si vous voulez, très souvent, les analyses qui sont liées au capitalisme sont ou bien tournées vers l'économie industrielle, ou bien tournées vers la finance, et ce sur quoi, ou encore vers le numérique, vers le digital pour les analyses les plus récentes, et ce sur quoi, en fait, nous voulions mettre l'accent, c'était la question du commerce, évidemment. Cette question du commerce est tout à fait centrale pour l'analyse, une analyse qui s'inscrit dans celle de Braudel.
Et cette dimension du commerce qui effectivement est très importante, Jean-Yves Renier, vous avez dit qu'il n'y a pas vraiment d'héritage, enfin pas d'héritier direct, on va dire, de Fernand Braudel. Pourtant, l'adjectif est resté, je le redis, celui d'être braudélien. C'est d'ailleurs pour les auditrices, auditeurs attentifs, ainsi que Guillaume Hernard avait qualifié l'ouvrage d'Arnaud Aurin qui est paru récemment justement sur ce capitalisme de la finitude. Est-ce qu'il y a une caractéristique commune qui pourrait rassembler les brodéliens? Est-ce que cette attention au temps très long, justement, ou cette attention aux flux commerciaux, par exemple?
Oui, alors, les flux commerciaux, mais enfin, c'est effectivement le concept de longue durée qui est resté, d'abord pour des raisons historiographiques, parce que avec le concept de longue durée, il s'adressait non seulement aux historiens, mais beaucoup aussi aux autres sciences sociales, hein. Son fameux article de 1958 dans les Annales, ce point de vue-là est un marqueur dans l'évolution des sciences sociales, au moins vu par les historiens. Et par la suite, disons que toute tentative de recours à la longue durée, d'une certaine manière, est obligée de se positionner par rapport à ce qu'a fait Fernand Braudel. L'originalité de Braudel, c'est que la longue durée, c'est un élément, mais c'est une articulation de temporalité qui est centrale chez lui. Et quand on voit aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, où une historiographie assez récente, depuis une quinzaine d'années, pas plus, revient vers la longue durée, en s'inspirant de Fernand Braudel, il y a une tendance à se limiter à la question du temps très long, alors que la longue durée elle-même est une composée de durée, et le concept de ce point de vue-là est assez différent.
Alors, vous l'avez dit...
Alors, si excusez-moi, allez-y, de vous interrompre, si on voulait trouver une œuvre qui reprend de manière assez extraordinaire, ce serait celle de Denis Lombard sur le carrefour javanais, qui est une œuvre assez exceptionnelle et qui, je pense, a profondément compris la longue durée, c'est-à-dire qu'il essaye d'analyser l'Indonésie contemporaine à travers une structure de temporalité qui est assez proche de la trilogie brodélienne.
Eh bien, très bien, ça nous fera un conseil lecture, une bibliographie enrichie pour les auditeurs. Vous l'avez mentionné, Jean-Yves Grenier, vous l'avez dit, dans les années 30, souffle une sorte de vent nouveau autour de ce qu'est l'histoire, de ce que peut l'histoire, de la façon dont on peut construire l'histoire. Toujours en 1955, Fernand Braudel rendait hommage justement à Lucien Febvre et en profite pour donner sa propre vision de ce que devrait être l'histoire.
Tout un impérialisme s'impose à l'histoire. Celle-ci doit vivre, voir, penser l'actuel, saisir les méthodes et les résultats des sciences sociales, ne pas accepter l'érudition pour l'érudition, ni finalement l'histoire pour l'histoire. Toute une école historique s'y emploie. Je devrais dire tout un mouvement, car il progresse sous le signe de la liberté et non selon un programme strict d'école. Ce mouvement est né de pensées brillantes en dehors de l'histoire même, comme celle de Vidal de la Blache, le père inégalé de la géographie française, de Maurice Albax et de Marcel Mauss, héritier et continuateur de Durkheim, de François Simian, innovateur et pionnier de l'histoire des prix. Le mouvement s'est organisé grâce à la plus vivante des revues historiques françaises, Les Annales, fondée en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre. Marc Bloch, héros de la résistance, a été fusillé par les Allemands en 1944. Lucien Febvre a continué jusqu'à présent son ardent combat. Il a lutté pour une revalorisation de l'histoire, pour un élargissement de ses méthodes et de ses horizons, en faveur d'un humanisme, d'une conquête nouvelle et passionnante de l'homme. À devenir conquérante, l'histoire a dû se réformer elle-même, subir tout un choc en retour, modifier ses ambitions, ses desseins, ses structures, ses problèmes, ses armes.
Jean-Yves Grenier, il nous faut évoquer un peu plus en détail le personnage et puis le rôle qu'il a joué, ce personnage de Lucien Febvre, donc on l'entendait, qui fonde la revue des Annales en 1929. Que va changer l'apparition dans le paysage intellectuel de cette école des Annales, dont Brodel parle d'ailleurs comme d'un mouvement, il refuse de parler d'école, mais en quoi est-ce un tournant en soi ?
Oui, alors il a raison, c'est pas une école, c'est un mouvement, tout un ensemble de contributions qui, d'une manière ou d'une autre, sont proches de la revue, publiées éventuellement dans la revue, mais pas nécessairement. Et on a des tas de façons d'être un affilié, si je puis dire, au mouvement des Annales. Et donc il y a pas de ce point de vue-là d'école. Enfin, c'est fondamental parce que ça, la citation là que vous venez de nous faire entendre de Bourdel est très intéressante. Bon, elle est en 55, c'est-à-dire Lucien Febvre meurt en 56. C'est presque une sorte de dommage anticipé. Les liens étaient extrêmement forts entre eux. Et ils avaient une même conception de l'histoire, en particulier dans ce rapport du présent au passé. Et ça, c'est vraiment une caractéristique importante des Annales, qui se traduit par le fait que dès le début, et on s'efforce encore de le faire dans la revue actuelle, on a des articles sur des périodes très contemporaines, sur des problèmes, voire même d'actualité, en essayant de voir dans quelle mesure une construction des temporalités permet de mieux comprendre ce type de questions. Et c'est ça que les Annales ont essayé de mettre en avant, lié, là encore, Fernand Brodel le dit très bien, à une ouverture, je dirais pas de pluridisciplinarité, interdisciplinarité, ce sont des mots qui veulent pas forcément dire grand-chose, ont une ouverture vers les autres, sciences sociales. Ça se voit très bien dans la correspondance de Bloch et Febvre, où ils parlent un peu des historiens, souvent de manière assez critique quand ils sont trop érudits, et par contre avec beaucoup d'intérêt pour d'autres spécies de sciences sociales. Ils évoquent même Keynes, qui est encore un économiste pas si connu que ça, et ils ont une espèce d'appétence, de curiosité pour tout ce qui se fait ailleurs et qui pourrait renouveler le discours historique, qui est une caractéristique qu'on essaye de maintenir encore jusqu'à aujourd'hui, mais qui était très très nouvelle, parce que quand je vous parlais tout à l'heure d'autres revues en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, elles deviennent des revues de champs spécialisés, c'est-à-dire d'histoire économique. Les Annales n'ont jamais été une revue d'histoire économique. C'est vraiment une revue d'histoire globale, pour paraphraser Marcel Mauss, et ça je crois que Brodel, Febvre et Brodel ont joué un rôle très important dans cette direction-là.
Ce qui est fondamental chez Brodel, et on l'entendait à l'instant, Arnaud Esquéré, c'est cette idée, et il le dit aussi dans cette archive à un autre moment, il le dit, pourquoi est-ce qu'on refuserait aux historiens le droit de s'intéresser de fait à l'actualité? Pourquoi on nous refuserait cette idée-là? Est-ce que finalement c'est aussi ce qui prévaut lorsqu'on est sociologue et lorsque, comme vous, on a fait cette recherche sur un temps manifestement assez long aussi, c'est ce que vous faites dans votre ouvrage, cette idée que fondamentalement l'histoire peut éclairer ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'il y a toujours cette lumière au bout du tunnel, on va dire? Est-ce que c'est ça la fonction principale de l'histoire, mieux comprendre aussi l'actualité, ou est-ce qu'il faut bien séparer peut-être les deux temporalités?
Non, je pense que la sociologie a besoin de l'histoire, elle entretient une relation privilégiée avec cette discipline. Elle en a besoin, si vous voulez, pour penser de manière comparative, c'est-à-dire que quand on est dans le temps le plus présent, on a besoin de faire saillir des différences qui nous permettent de comprendre les spécificités, en quelque sorte, de ce qu'on étudie. Et évidemment, l'histoire est la première des disciplines vers laquelle le sociologue peut se tourner. Et donc, c'est une discipline tout à fait importante. Alors, cela étant dit, ce lien entre sociologie et histoire Il se noue plus particulièrement dans une tradition qui, par exemple en Allemagne, est reprise par quelqu'un qui s'appelle Andreas Reckwitz et qui défend qu'il y a comme tâche principale pour la sociologie de faire une théorie de la société par rapport à une autre tendance de la sociologie qui va se tourner davantage vers les sciences de la nature ou vers des procédés plus expérimentaux et qui veut permettre à distance cette discipline qu'est l'histoire. Mais l'apport en fait de Braudel est tout à fait une ressource pour renouer ou en tout cas impulser en quelque sorte un lien entre histoire et sociologie.
Et pour comprendre aussi pourquoi Braudel s'est tourné vers l'économie, il faut remonter au commencement. Alors on pourrait, il faut bien souligner que l'œuvre de Braudel est vaste, qu'il y a quand même deux œuvres majeures qui se dégagent. On pourrait dire que tout a commencé en 1949 lorsqu'est publiée sa thèse, une thèse soutenue l'année précédente et intitulée « La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II ». Alors il faut le dire, Jean-Yves Grenier, il y a là une forme d'ellipse, on va dire, puisque en 1949, Fernand Braudel est déjà relativement âgé, puisqu'on l'a dit, il est né en 1902. Au moment de la publication de sa thèse, est-ce qu'il est d'ores et déjà reconnu en tant qu'historien? Puis quel a été son parcours pendant les environ 40 années qui ont précédé cette thèse? Comment expliquer cette publication relativement tardive?
Oui, alors, c'est déjà, en 1949, c'est un historien connu. Sa soutenance de thèse en Sorbonne a été un moment important, avec dont Ernest Labrousse, dont je parlais tout à l'heure, dans le jury, Lucien Febvre, évidemment. Et ça a été la reconnaissance de l'apparition d'un très grand historien. Là, il n'y avait absolument aucun doute là-dessus. Lucien Febvre était l'un des patrons de l'historiographie, du moins de la nouvelle historiographie, qui s'opposait un peu à l'historiographie traditionnelle encore dominante à la Sorbonne. Mais on voyait que dans les façons nouvelles de faire de l'histoire, Fernand Braudel était incontestablement un maître qui allait s'imposer. De plus, c'est quelqu'un qui avait une très forte personnalité, qui avait une capacité à organiser, à mettre en avant ses idées dans les débats intellectuels, qui étaient vraiment tout à fait exceptionnel. Donc il n'y a aucun doute qu'après 1945, Braudel était quelqu'un d'important. Alors pourquoi est-ce qu'il a soutenu si tardivement? C'est lié à deux choses. D'abord, c'est un peu le parcours traditionnel de la thèse d'État en France pendant très très longtemps. Et La Méditerranée, c'est un livre extrêmement gros. C'est deux gros volumes, très amples, avec une érudition extraordinaire. Il lui a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour visiter tous les dépôts d'archives, rassembler tout cela. Et le deuxième élément, c'est la guerre, puisque il a été mobilisé juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Il a été ensuite dans un camp en Allemagne. Il a passé toute la période de la captivité en Allemagne. Et alors là, il y a un épisode assez extraordinaire, puisque on met souvent ça en avant, c'est qu'il a réussi à rédiger une bonne partie de sa thèse, d'une part avec l'aide un peu de sa femme qui avait conservé ses fiches à Paris, et de Lucien Febvre qui a fait tout ce qu'il a pu pour lui rendre les conditions acceptables pour travailler, et d'autre part grâce à sa mémoire absolument phénoménal, cette espèce d'ordinateur ambulant qui était Fernand Braudel et qui lui a permis de rédiger une thèse, mais qui évidemment à son retour il a fallu qu'il actualise un petit peu, et tout ça au total ça lui a fait soutenir une thèse à un âge qu'il avait, il avait passé 45 ans, ce qui encore une fois pour nous peut sembler très âgé parce qu'on ne soutient plus de thèse à 45 ans, enfin du moins dans une perspective universitaire. Par contre, pour les thèses d'État, c'était quelque chose qui était encore relativement courant.
Mais on voit en tout cas qu'il a passé un certain temps aussi, alors interrompu par les soubresauts de l'histoire, et du reste il le dit dans la préface de La Méditerranée, il revient sur l'origine de cette thèse, il dit: quand je l'entrepris en 1923, ce fut sous la forme classique, certainement plus prudente, d'une étude consacrée à la politique méditerranéenne de Philippe II, mes maîtres d'alors l'approuvaient fort, ils la voyaient se rangeant dans les cadres de cette histoire diplomatique assez indifférente aux conquêtes de la géographie, peu soucieuse de l'économie, comme la diplomatie elle-même trop souvent, et des problèmes sociaux assez méprisante à l'égard des faits de civilisation, des religions et aussi des lettres et des arts, ces grands témoins de toute histoire valable et qui, calfeutrés dans son parti pris, s'interdisaient tout regard au-delà des bureaux de chancellerie sur la vraie vie féconde et drue. Très concrètement, Jean-Yves Grenier, est-ce qu'on doit comprendre là, à travers ces mots d'introduction, que l'économie est mise à part par les historiens? Est-ce qu'il y a une forme de défiance pour l'économie, entre autres disciplines, on l'entendait là, et autres champs, on va dire, mais que l'économie n'est pas tellement un objet de recherche pour les historiens pendant assez longtemps.
Oui, alors là, alors on reconnaît d'abord le style extraordinaire de Fernand Braudel, qui est un homme d'écriture vraiment hors du commun. L'histoire économique existait déjà. On s'intéressait aux chiffres. On a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, l'historiographie de l'époque de Braudel va beaucoup mobiliser ces premiers historiens qui, à la fin du 19e, au début du 20e, ont rassemblé des données quantitatives. Et on a un certain nombre de travaux très importants, à commencer par ceux de Max Weber, qui est un grand sociologue que Braudel a beaucoup, beaucoup lu. Là, il s'adresse et il critique plutôt un type d'histoire avec laquelle il va devoir combattre assez longtemps. Le fait qu'il n'ait pas été élu à la Sorbonne et qu'il se soit reporté vers l'école pratique des hautes études, qui deviendra à terme l'école des hautes études en sciences sociales, tout à fait significatif. C'est un parcours universitaire qui ne se fait pas au sein de l'université. Et du point de vue historiographique, ça se traduit par le fait qu'il a une grande méfiance par rapport à cette historiographie entre guillemets traditionnelle. Et le premier objet qu'il s'était donné pour sa thèse, c'était précisément Philippe II et la Méditerranée, ce qu'il explique très bien. Et celui qui va lui faire réfléchir et proposer de retourner, c'est précisément Lucien Febvre. Lucien Febvre qui lui aussi est un marginal central de l'historiographie, si je puis dire. Il est absolument incontournable. En même temps, c'est quelqu'un qui a un parcours universitaire qui est dans des marges confortables, mais des marges tout de même. Et ce retournement, d'abord, il le doit à Lucien Febvre, ce qui montre que Lucien Febvre est un spécialiste d'histoire culturelle, d'histoire religieuse. C'est l'auteur d'un livre absolument exceptionnel qu'il faut que tous nos auditeurs lisent sur Rabelais et le problème de l'incroyance au XVIe siècle. Là, si on veut voir ce que c'est que l'histoire problème, on a un livre absolument remarquable. Et Braudel a compris qu'effectivement, son vrai sujet, c'était pas Philippe II. Philippe II allait lui donner un cadre temporel et que fondamentalement, ce qui était intéressant, c'était la Méditerranée.
Ce qui était un déplacement de regard intéressant pour un historien, on pourrait dire que c'est avant tout un objet très géographique que la Méditerranée. Il y a quand même une forme de proximité entre Braudel et la géographie. Ça reste aussi un de ses premiers amours, on pourrait dire ça. Ça reste dans ses, on va dire, son champ de vision.
Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est encore le cas, l'agrégation est une agrégation d'histoire-géographie. Il a passé l'agrégation, il a donc été confronté à la géographie plus que à toute autre discipline. Et c'est votre première citation le disait bien, la discipline qui bougeait à l'époque, c'était la géographie. Une géographie extrêmement historique. On a cité Vidal de Lablache, qui est le père de ces transformations. Et le temps long de la géographie historique n'est pas sans rappeler quand même de très près le temps long que Braudel va utiliser pour la Méditerranée, en particulier dans le premier tome, où il va décrire toutes ces structures immobiles qui relèvent de la géographie, de l'espace perçu comme un espace géographique.
Arnaud Esquéré, on a mentionné Lucien Febvre, qui a occupé une place très importante à la fois dans l'histoire de la discipline, mais aussi dans l'histoire plus personnelle de Fernand Braudel. Et de fait, Fernand Braudel va marcher dans ses traces, dans ses pas, puisque, bon, à travers notamment les annales, mais il lui succède aussi après sa mort en 1956, on l'a dit, à la direction de la 6e section de l'EPHE, l'école pratique des hautes études, qui deviendra par la suite l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Arnaud Esquéré, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'institutionnalisation aussi progressive de cette pluridisciplinarité? Alors, Jean-Yves Vernier n'aime pas ce terme, mais de cette idée de croiser les disciplines, est-ce que l'EHESS est l'endroit aussi où se produit cette pensée-là?
Oh ben ça, il faut poser la question à Jean-Yves Grenier davantage qu'à moi.
Mais sur cette institutionnalisation.
Même si j'ai été étudiant dans cette école où j'ai fait à la fois ce qu'on appelait à l'époque un DEA et ensuite ma thèse. Mais effectivement, le HESS et Braudel ont développé cette idée de... disons de dialogue, je pense, entre les disciplines. Et si vous voulez, une des questions qui pouvait se poser d'ailleurs était celle de savoir comment s'articuler par rapport à la question de la modélisation et d'un certain réalisme par rapport à ce qui se passe ou pas et comment on éprouve les modèles. Voilà, qui était une problématique de l'époque, qui est peut-être moins actuellement ce type de problématique, mais qui se posait notamment par rapport à l'économie. Mais il est clair qu'effectivement, le HESS a été un endroit extraordinaire et est toujours un endroit extraordinaire où les disciplines dialoguent entre elles.
On a commencé à lever le voile sur la raison qui explique qu'un historien se penche de fait sur l'économie, alors même que je le disais en introduction, en citant Braudel, ce n'est pas considéré nécessairement comme une discipline ou une science noble. Alors pour comprendre très concrètement, plus concrètement peut-être aussi, comment s'incarne cette approche chez Braudel, je vous propose d'écouter un extrait de La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II.
Les îles, sur le chemin des puissantes routes maritimes, participent aux grandes relations. Un secteur de grande histoire se surajoute à leur existence ordinaire. Leur économie en subit régulièrement le contre-coup, incapable qu'elle est de résister à certains appels. Combien d'îles ont été ainsi envahies par des cultures étrangères qui n'ont leur raison d'être que par rapport au marché méditerranéen, voire mondial ? Faites pour l'exportation, ces cultures menacent régulièrement l'équilibre de la vie insulaire. Elles sont souvent responsables des famines menaçantes. On le voit sur l'exemple agrandi d'une netteté aveuglante des îles de la Méditerranée Atlantique, Madère, les Canaries, Sao Tomé, qui toutes ont été littéralement ravagées par la monoculture de la canne à sucre, comme le sera plus tard le Brésil colonial du Nord-Est. Madère, à l'origine l'île du bois, perd rapidement la majeure partie de sa couverture forestière à cause des moulins à sucre et de leur exigence en combustible. Or, cette révolution se fait uniquement dans l'intérêt d'une Europe qui réclame le précieux produit, et point pour le profit des insulaires eux-mêmes. Car la calamité avec la canne à sucre, c'est que, là où elle occupe le sol, elle interdit toute culture intercalaire et restreint l'espace des cultures vivrières. Dévastatrice des équilibres anciens, cette nouvelle venue est d'autant plus dangereuse qu'elle est soutenue par un capitalisme puissant, issu au XVIe siècle de tous les horizons, d'Italie comme de Lisbonne ou d'Anvers, qu'on ne peut lui résister.
Un extrait donc de la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, lu par Françoise Le Floch de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Alors l'autre spécificité de cet ouvrage, en plus d'être centré sur un espace et non un individu qui aurait pu être Philippe II dans l'absolu, c'est la façon dont Braudel, on a commencé à l'évoquer, Jean-Yves Grenier, distingue une histoire immobile, celle de l'homme dans ses rapports avec le milieu qui l'entoure, une histoire que Braudel considère comme lente à écouler, puis une histoire dite sociale, lentement rythmée, qui se situe au-dessus, c'est l'histoire des groupes, et Braudel veut comprendre comment ces vagues de fond soulèvent l'ensemble de la vie méditerranéenne en étudiant les économies, les états, les sociétés, les civilisations considérées comme des forces de profondeur. On a là une première vision à la fois de la façon dont organise finalement sa pensée et aussi son ouvrage Braudel, mais aussi une vision de ce que représentent les économies, qui est utilisée aussi au pluriel. Pourquoi cette deuxième couche est essentielle pour Braudel pour comprendre le mouvement fondamental de l'histoire ?
Je pense que l'extrait là, on propose une explication intéressante. La question des îles est fondamentale chez Braudel. Il a compris que les îles de la Méditerranée permettaient de comprendre beaucoup de choses parce que ce sont des espaces plus réduits, ce sont des espaces qui sont donc plus accessibles aux transformations. Et là, on voit bien trois aspects qu'il décrit très vite et qui finalement annoncent assez bien ce dont on parlera plus tard, à savoir sa trilogie sur le capitalisme, à savoir ce sont des espaces qui ont une matérialité, hein, ce sont des îles méditerranéennes, tout le premier volume de la Méditerranée décrit le type de vie, le rapport montagne, mer, etc. Et ça, ce sont des choses qui changent extraordinairement peu. Ensuite se rajoute une deuxième étape qui est ce qu'on va appeler économie au sens très très large, parce que comme vous l'avez dit, il y a des économies chez Braudel, et avec cette monoculture du sucre. Et on le sait, la culture du sucre va se déplacer depuis le Proche-Orient jusqu'à l'Amérique latine, en passant d'abord par les îles, en particulier la Sicile, et ensuite les îles atlantiques comme Madère. Et là, c'est un fait de société. Ce sont les individus qui ont voulu ça. Et là, on retrouve les deux autres niveaux, à sa fois un niveau économique avec la culture et ses effets de, non pas très long terme, mais de long terme, à savoir un épuisement des sols. Et ce qui motivent tout ça, ceux qui organisent tout ça, un troisième étage, qui n'appelle pas encore capitalisme dans Méditerranée, mais qui le fera plus tard, à savoir celui de la spéculation, un mot qu'il utilise assez facilement, qui organise tout cela. Et alors c'est intéressant dans ces citations-là que vous avez de montrer, et ça c'est vraiment extraordinaire chez Bourdelle, ça m'a toujours beaucoup impressionné, sa capacité à sentir des sujets que lui-même ne va pas vraiment développer, mais qui vont être par la suite développés. Le problème des îles et de la question environnementale est absolument crucial. On a des travaux, on ne va pas les citer, mais des travaux tout à fait essentiels, en particulier anglo-saxons, pour montrer comment est-ce que les îles sont un laboratoire intéressant, parce que ce sont des espaces extrêmement fragiles et en même temps qui vont donner lieu à des cultures spéculatives extrêmement intenses. Donc des lieux de transformation très rapide, ce qui a permis à Brodel de saisir cela, hein, et de bien montrer qu'on a, on a différents temps de l'histoire, un temps écologique, un temps économique, un temps où les choses très matérielles, où les choses évoluent relativement peu, et c'est son habileté à combiner ces différents temps, à la faire jouer pour expliquer les choses, qui donne vraiment une puissance explicative assez rare à Brodel.
Et là, Arnaud Esquiré, il faut nous expliquer, on l'a dit, Brodel n'entend pas laisser de méthodologie, ou en tout cas de guide méthodologique encore une fois, mais en tout cas, il n'entend pas faire école spécifiquement. Dans quelle mesure cette conception-là des choses, à savoir ces trois couches qu'on vient d'évoquer avec Jean-Yves Grenier, puis cette temporalité différente, cette idée de vie immobile, puis de plus en plus rythmée, et puis une troisième couche où il n'y aurait que, on va dire, l'écume des vagues, pour reprendre cette métaphore-là, dans quelle mesure cette conception-là de comprendre où se passent les choses et à quelle couche, on va dire, en termes de temporalité, mais aussi de société, peut être reprise plus tard, sans pour autant que ce soit une méthodologie, mais est-ce que, par exemple, c'est une méthode que vous avez employée, notamment dans votre ouvrage, ou est-ce que ça peut être considéré comme un cadre malgré tout ?
Disons, c'est plutôt l'idée que ça nous invite à ne pas perdre de vue l'articulation de ces temporalités. Pourquoi ? Parce que quand on travaille de manière spécialisée sur tel sujet ou tel autre sujet, c'est-à-dire tel groupe ou tel autre groupe qu'on étudie en sociologue et qu'on fait une enquête, c'est des enquêtes tout à fait importantes, on a tendance à se focaliser sur une période qui est assez réduite, y compris d'ailleurs quand on fait de la sociologie historique. Et l'autre élément, c'est que ça peut être assez statique. Alors, ce qui est intéressant avec Brodel, c'est de penser effectivement l'articulation de ces différents niveaux de temporalité, mais je dirais on a le même problème avec l'espace, c'est-à-dire comment est-ce qu'on articule macro et micro, et comment est-ce qu'on passe d'un niveau à un autre. Dans le travail que nous avons essayé de faire avec Luc Boltanski sur ce qu'on a appelé l'économie de l'enrichissement, et évidemment ça se fait par le biais de l'économie dans notre cas, on a essayé en effet d'articuler à la fois un temps assez long, puisqu'on part avec l'idée qu'il y aurait la mise en place de structures de la marchandise à partir de ce qu'on a appelé la forme standard depuis le 19e siècle. Et puis, on essaie aussi de travailler sur des situations plus à une temporalité plus courte, on va dire, ou sur des périodes plus courtes, et l'apparition, pour nous, évidemment très très importante, de ce type d'économie sur lequel on s'interroge assez peu, qui mêle à la fois l'activité de l'industrie du luxe, des activités artistiques et culturelles, du tourisme, et qu'on a regroupé sous ce terme d'économie de l'enrichissement, et qui nous semble absolument central dans l'économie française actuelle.
Et ce qui est intéressant, Arnaud Esquiré, c'est que les marchandises ont une très grande importance aussi dans l'œuvre de Brodel. C'est un élément essentiel, notamment parce qu'elle lie économie et espace, qu'elle lie temps et espace également. Et il le dit, les lettres de change sont dans son ouvrage des marchandises privilégiées, parce qu'elles sont, on va dire, l'expression de ce rapport à la temporalité. Pourquoi les marchandises, alors chez Brodel, mais aussi chez vous, et leur circulation, mais aussi leur essence même, finalement, ce qui fait marchandise, est important pour comprendre l'époque dans laquelle on se situe, et puis surtout d'où on vient. En fait, est-ce que ce qui fait marchandise nous raconte aussi l'économie dans laquelle on se trouve? Est-ce que c'est à cette aune-là aussi que vous avez décidé de vous intéresser à cet objet ?
Bah, si vous voulez, vous avez un ensemble de discours ou d'analyses qui mettent l'accent sur la dématérialisation, la digitalisation, le regard est beaucoup tourné vers cela. Et ce que Luc Boltanski et moi-même avons considéré, c'était que c'était étrange de ne pas prendre en compte le fait que nous n'avons jamais été environnés d'autant d'objets. Voilà. Donc on s'est interrogé en fait sur cette économie matérielle des choses. Et l'autre élément qui nous a intéressé, c'était cette idée de plus-value marchande qu'on trouve chez Fernand Braudel par rapport à l'idée d'une plus-value qui viendrait du travail en fait, hein, et l'idée que la marchandise pour se déplacer doit augmenter de prix au cours de son voyage. Et donc on a ce qui nous a intéressé, c'est cette idée de déplacement. Alors on a un peu pas tordu, mais en tout cas ajusté, ou en tout cas on s'est inspiré de cette idée de déplacement en considérant qu'il pouvait y avoir d'autres types de déplacements que des déplacements spatiaux qui permettaient d'avoir cette plus-value marchande. En tout cas, ça nous a été tout à fait fondamental pour développer ou expliquer ce type d'économie. Je me permets juste de compléter en disant, si vous voulez, ça nous semble tout à fait sous-estimé dans l'analyse, c'est-à-dire que pour comprendre un peu l'enjeu hein, de cette économie de l'enrichissement que nous avons essayé de développer avec Luc, c'était que si vous regardez les personnes les plus riches actuellement en France, vous avez Bernard Arnault qui est l'homme le plus riche. Et quand on pense à cette question de richesse, il faut pouvoir expliquer pourquoi il est le plus riche alors qu'il est sur des activités qui sont principalement l'industrie du luxe. Et quand vous avez des travaux sur l'accroissement des inégalités économiques, qui sont tout à fait justes, ils n'expliquent pas en fait les transformations des activités qui font en fait cet accroissement de la richesse. Donc nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est d'expliquer ce type de transformation et pourquoi c'est plutôt ce type d'activité qui aujourd'hui crée des plus-values extrêmement importantes et sont des sources de richesse extrêmement élevées.
Et du reste, ce qui crée la plus-value est aussi au cœur hein, de la recherche et de l'œuvre de Braudel. Et on le voit, la notion de marchandise aussi, de fait, d'où ce lien. Alors, on l'a dit dans cet ouvrage, c'est la Méditerranée qui est au centre de ses préoccupations à travers les circulations des marchandises, de l'argent, des lettres de change et la façon dont les places marchandes vivent au rythme aussi de ces circulations, de Raguse à Venise, de Venise à Anvers, Venise où Vivaldi compose son concerto pour deux violons en la mineure. L'Allegro molto de Vivaldi, vous êtes bien à l'écoute de France Culture, c'est à l'historien Fernand Braudel que nous consacrons notre portrait du jour, car Braudel fut aussi à sa manière, révolutionnaire d'une certaine sorte, penseur de l'économie et du capitalisme, et nous sommes toujours en compagnie du sociologue et directeur de recherche au CNRS Arnaud Esquéré et de Jean-Yves Grenier, directeur d'études à l'EHESS. Thank you. Jean-Yves Grenier, nous étions quittés sur la publication de La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, donc en 1949, nous le disions. Bien plus tard paraît Civilisation matérielle, économie et capitalisme, un autre ouvrage majeur pour Brodel et dans sa bibliographie. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit même là de l'ouvrage peut-être le plus important si on veut vraiment comprendre la vision de Brodel vis-à-vis de l'économie? Est-ce que c'est dans cet ouvrage-là qu'il se saisit véritablement de cet objet qu'est l'économie ou que sont les économies?
Ah oui, très certainement, oui. La Méditerranée a eu un impact majeur du point de vue méthodologique. C'était une façon très très nouvelle de faire de l'histoire. Civilisation matérielle, économie et capitalisme va avoir un impact plus fort dans la mesure où il s'adresse à des questions qui sont beaucoup plus générales, à savoir qu'est-ce que c'est que l'économie, qu'est-ce que c'est qu'une économie à l'époque moderne, donc avant la révolution industrielle, et en quoi est-ce que ces structures économiques nous disent, nous parlent de questions économiques très contemporaines.
Mais alors on en arrive là à une question fondamentale et qui revient aussi à l'introduction que je faisais. Il le dit, l'économie ou l'histoire économique n'est pas forcément considérée comme très noble. Pourquoi lui s'y intéresse? Pourquoi Brodel il trouve une forme de stimulation intellectuelle aussi peut-être? Qu'est-ce qui l'intéresse dans l'économie?
Ouais, ce qui l'intéresse dans l'économie, c'est que pour lui, c'est une clé explicative de l'évolution de société. Marx a joué un rôle très important dans la réflexion de toute cette génération. Aucun de ses historiens ne sont marxistes. Hein. Même Labrousse, qui est probablement le plus proche, qui au départ est un économiste, a utilisé beaucoup Marx, il l'a fréquenté, et il n'est absolument pas marxiste, et Brodel ne l'est absolument pas. Par contre, c'est un auteur avec lequel il dialogue. De la manière qu'il n'est pas weberien, il cite souvent Max Weber. Et cette clé explicative qu'est l'économie, on la retrouve malgré tout chez Brodel. Il n'aurait pas aimé une explication, un terme aussi fort, surtout en référence à son maître et ami Lucien Febvre. Mais malgré tout, l'économie tient un rôle absolument déterminant dans son œuvre.
Et puis là encore, c'est un ouvrage assez volumineux dont on parle, qui se découpe en trois tomes. Le premier est intitulé « Les structures du quotidien, le possible et l'impossible », le deuxième « Les jeux de l'échange » et le troisième « Le temps du monde ». Clairement, quelle est l'ambition de Brodel et qu'est-ce que nous raconte, encore une fois, ce découpage en trois parties, cette fameuse tripartition?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait une trilogie temporelle avec la Méditerranée, et là on retrouve une autre trilogie qui recoupe, sans recouvrir, la première, à savoir trois niveaux, l'un qui correspondrait au premier volume de la Méditerranée et qui est donc le premier volume de la civilisation matérielle, économique, etc., à savoir le volume de la matérialité. C'est Lucien Febvre qui lui avait commandé un livre qui serait sur une histoire matérielle de l'Occident. Et lui a vite compris que là, on touchait des choses absolument fondamentales. Cette matérialité, c'était pas seulement une histoire agricole, une histoire rurale, comme on en faisait énormément, et parfois très bien, en son temps, mais c'était vraiment l'environnement matériel, au sens large, de nos sociétés. Et ça, il observe que ça bouge relativement peu, que c'est assez stable, que c'est soumis à d'énormes contraintes, et il va dire, là, on a un premier niveau d'économie où on n'a pas à faire intervenir les jeux de l'échange, le marché, etc. On a quelque chose qui est de l'ordre de l'autoreproduction sans développement, sans transformation. Avec des transformations très lentes, par exemple, l'arrivée de nouvelles plantes d'Amérique latine à partir du XVIe siècle. Mais ça, ce sont des changements qui sont très lents. Ça, c'est vraiment le premier niveau. Et alors, au-dessus, il va construire d'autres niveaux. Le deuxième, qui sera là vraiment sur le principe même de l'activité économique, qui va appeler économie de marché. Et c'est une expression économie de marché qui n'a absolument rien à voir avec ce que les Américains appellent market economy, puisque pour les Américains, la notion de capitalisme n'a pas sens particulier, n'a pas plus de raison d'attribuer une particularité au capital plutôt qu'au travail. Or, on ne dit pas travaillisme, on dit capitalisme. Donc, le capitalisme ne correspond pas à grand-chose pour un économiste, particulièrement les anglo-saxons. Pour eux, c'est la market economy qui compte. Et Brodel va établir une distinction nouvelle et assez radicale entre l'économie de marché d'un côté et le capitalisme, qui lui est le contournement des règles de l'économie de marché. Donc on pourrait dire que l'économie de marché, ce sont des échanges qui se font à égalité, à valeur égale, et qu'avec le capitalisme, on va avoir, grâce à la puissance et à la force du capital, la possibilité pour un certain nombre d'acteurs, très limités en nombre, de contourner les règles du marché, de fausser le fonctionnement du marché pour utiliser l'échange à leur profit, et donc réaliser des profits beaucoup plus importants, en particulier dans le commerce au loin qui correspond au type de marchandises dont Arnaud parlait tout à l'heure.
Alors on va voir comment cette plus-value effectivement vient de ce fameux commerce au loin, mais cette nouvelle tripartition, ce nouveau découpage, comme on le disait, où vie matérielle, économie de marché et capitalisme ne doivent pas être confondus, et donc retracés dans civilisation matérielle, économie et capitalisme. Braudel expliquait sa démarche en décembre 1979 sur le plateau d'Apostrophe.
Il faut partir du capitalisme pour comprendre la démarche qui a été la mienne. Dans le premier volume, le mot de capitalisme n'est pas prononcé, je crois. S'il est prononcé une fois ou deux fois, ça m'aura échappé.
Oui, mais vous vous rattrapez par la suite.
Oui, je m'attrape par la suite, mais parce que au rez-de-chaussée, là, dans cette vie quotidienne, cette vie ordinaire, cette vie de routine, le capitalisme ne joue aucun rôle. Alors j'ai cherché dans le premier volume, qui s'appelle les structures du quotidien, j'ai cherché à ne pas parler du capitalisme. Le premier volume où le capitalisme n'existe pas.
Vous parlez des gens, vous parlez de...
Oui, je parle des gens, je parle des répétitions, je parle des habitudes, je parle même des techniques, je parle des villes, je parle de la monnaie, je parle de tout ce qui se répète en quelque sorte et qui échappe, je dirais, à toute initiative, et le capitalisme n'en est pas responsable. Les jeux de l'échange, c'est à la verticale, enfin, j'essaie d'aller au-dessus de la vie ordinaire et j'aborde l'économie de marché. C'est-à-dire les marchés, les boutiques, les colporteurs, les foires, les bourses, les banques, les études de notaire, tout ce qui est l'économie de marché. Et pour les Allemands, c'est un mot qui m'est resté toujours dans la mémoire, c'est la transparence. C'est-à-dire que quand vous allez sur le marché, quand vous entrez dans une boutique, vous êtes en face d'une situation qui n'est pas une situation tellement compliquée, vous la comprenez, quitte à vous tromper, mais vous la comprenez. Tandis qu'au-dessus de l'économie de marché, quand vous arrivez auprès des grands marchands, auprès des banquiers, auprès des ceux que j'appelle les capitalistes, faute d'un autre mot, à ce moment-là, vous avez un jeu sophistiqué. Si bien que l'étiquette de capitaliste, je l'ai placée tout d'abord en haut, au-dessus de l'économie de marché. C'est un superlatif.
Arnaud Esquiré, en quoi cette nouvelle vision, ce dont vient de parler de fait Fernand Braudel en expliquant son rapport aussi à cette notion de capitalisme, fait-elle irruption finalement sur une scène intellectuelle? Dans quelle mesure cela change la donne? Dans quelle mesure cela vient bouleverser des idées préconçues? Il le dit d'ailleurs aussi dans l'introduction de son ouvrage, il le dit qu'il s'est heurté aussi à la conception notamment des économistes qui voyaient la révolution industrielle notamment comme l'alpha et l'oméga de ce capitalisme-là. Est-ce que la vision de Fernand Braudel vient modifier cela en profondeur?
Oui, c'est-à-dire que chez Marx, l'accent qui est mis sur l'économie industrielle, comme on le disait tout à l'heure, et que là, en fait, le capitalisme dont il est question, effectivement, dans ce volume-là dont on a parlé, les jeux de l'échange, Braudel au milieu de l'ouvrage, un passage dans lequel il reprend les termes capital, capitaliste et capitalisme, et il dit qu'il a hésité, en fait, à reprendre ce terme, et qu'il a fait le choix de l'utiliser après réflexion, et il met l'accent sur eh bien ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire la marchandise, la plus-value marchande et le commerce au loin, et ça, voilà, c'est, c'était tout à fait, et il le déploie effectivement tout au long de cet ouvrage, mais je pense que Jean-Yves Grenier en parlerait mieux que moi.
Jean-Yves Grenier, sur l'apport finalement, ou en fait la mesure dans laquelle, parce qu'on ne se rend pas forcément très bien compte avec la distance notamment temporelle, mais dans quelle mesure finalement cette nouvelle genèse du capitalisme, en tout cas cette idée de redéfinir aussi ce qu'est le capitalisme, vient effectivement changer la donne. Est-ce que ça choque par exemple lorsque Fernand Braudel établit cette distinction très claire entre économie de marché et capitalisme?
Ça choque, oui, ça choque, et ça explique pourquoi est-ce que ça a été relativement peu repris par la suite. Parce que l'approche classique du capitalisme, c'était en termes, historique du capitalisme, c'était en termes d'accumulation primitive. L'idée étant que, on trouve ça chez Marx, on trouve ça chez un penseur libéral antimarxiste comme Walt Rostow aux États-Unis dans les années 60, c'est l'idée que chaque société doit accumuler un stock de capital et que cette accumulation, au bout d'un certain temps, permet une transformation des rapports de production, et ces nouveaux rapports de production vont faire naître le capitalisme. Alors ça, c'est pas du tout la vision vision brodélienne. Et là où il y a une rupture, c'est que si vous prenez la vision marxiste en termes d'accumulation du capital, ou si vous prenez une vision beaucoup plus économiste, beaucoup plus contemporaine aussi, en termes d'institutions, à chaque fois, on a une flèche du temps. La flèche du temps qui fait que le capitalisme s'élabore lentement, et que le capitalisme, une fois qu'il est là, fait disparaître les autres systèmes, éventuellement on va vers le socialisme quand on croit à Marx, on va vers une société ouverte idéale quand on est comme Douglas North, mais dans tous les cas, le capitalisme est un moment dans l'histoire. Alors que Braudel, lui, a une approche très différente, et il dit, mais le capitalisme, on peut en trouver à différents moments dans l'histoire, d'une part, et d'autre part, le capitalisme n'élimine pas les autres formes de comportement et d'action économique.
Elle cohabite.
Ils cohabitent, exactement. Ça, c'est tout son travail, c'est de montrer comment ça cohabite. Et une des critiques, d'ailleurs, qui a été faite par un certain nombre d'historiens, en particulier anglais, aux travaux de Braudel, c'est de ne pas avoir assez montré le type d'interaction qu'il y avait entre les trois niveaux.
Et par ailleurs, Braudel est assez prolixe, on va dire, sur la façon dont il élabore son travail, dont il travaille et l'effort que ça lui coûte également. Il dit qu'il a été confronté à un très très long travail d'archives, on en parlait au début de l'émission, et on s'en doute bien pour retracer cette période extrêmement longue et puis cet horizon extrêmement vaste. Mais il témoigne aussi de son étonnement et de la difficulté à être confronté à ce qu'il appelle une zone d'opacité, c'est-à-dire celle qui se trouve derrière cette économie plus transparente que sont de fait les mécanismes de production, d'échange, les ateliers, les boutiques, les bourses, les banques, les foires, les marchés. Tout cela est finalement assez vite compréhensible, reconstitue des réalités claires sur lesquelles le discours économique s'est construit, c'est ce que nous dit Braudel. Mais de fait, en miroir, quelle est l'opacité qui l'intéresse véritablement, Jean-Yves Grenier ? Quelle est la part à laquelle il s'est confronté, lui ?
L'opacité qui l'intéresse, c'est précisément cette distinction entre ce qui serait des marchés à échange juste. Hein, c'est pas de cette transparence qui est tout à fait, c'est une expression que je connaissais pas, cette archive, mais qui est tout à fait intéressante. Elle dit beaucoup de choses. Et ce qui n'est pas dans la transparence, et précisément dans l'opacité, c'est dans ce qui est le contournement des règles. Alors, c'est pas un contournement des règles, à savoir, ce sont des fraudeurs, donc il faut. C'est pas ça. Contournement, il y a des règles de fonctionnement et on peut faire autrement. Faire autrement, c'est que la puissance du capital vous donne la capacité de. Un exemple très bête, c'est les villes sont approvisionnées au XVIIe, XVIIIe siècle en grains par des commerces réguliers. C'est un commerce extrêmement stable qui pose pas de problème et qui rapporte peu de profits parce que précisément, et on est dans la transparence. Arrive une crise. Le prix du blé augmente énormément. Donc il faut beaucoup plus de capitaux pour arriver à mobiliser et à faire les approvisionnements des villes, excite les marchands ordinaires qui n'ont pas les capitaux suffisants. Qu'est-ce qui arrive ? Les capitalistes, c'est qu'on peut utiliser pour le 18e. Parce que eux ont les capitaux nécessaires et ils vont exploiter une source de prix extraordinaire qui est le prix de pénurie et il va y avoir des enrichissements considérables. Là, il y a contournement des règles ordinaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a malhonnêteté, c'est pas le problème. Il n'est pas du tout
c'est
dans la morale.
Ça échappe au quotidien.
Hein. Ça échappe aux règles ordinaires de l'échange transparent et là, il y a opacité parce que c'est très difficile de comprendre exactement comment les choses se font, mais il y a source de financement, d'accumulation, de longue, lente accumulation, et le capitalisme sort de ça.
Donc à partir du moment où il y a ces fameuses zones où, qui requièrent des compétences très, très spécifiques, où c'est une forme d'art sophistiqué que de pratiquer cette économie, seuls quelques privilégiés y ont accès, donc c'est bien cela que Braudel appelle finalement la zone du capitalisme. C'est à partir du moment où il y a l'irruption de ces personnages-là et de cette logique-là.
Oui, tout à fait. Sauf que ce sont moins les personnages qui l'intéressent vraiment que le capital.
Que le capital en soi. Jean-Yves Grenier, avant de se quitter, il y a un terme très important qu'on n'a pas abordé frontalement, mais qui est très présent dans le troisième volume de Civilisation matérielle, économie et capitalisme, qui s'intitule Le temps du monde. C'est celui d'économie monde. Alors Braudel le dit, il l'avait déjà employé, il considérait déjà que la Méditerranée était en soi une économie monde. Mais qu'est-ce que finalement, dans ce troisième tome, l'économie monde, qui est une traduction, on va dire, de Weltwirtschaft, mais en quoi ça constitue, quel est ce concept?
Une économie monde, la définition, c'est que c'est un espace économique. Donc là, on rejoint le caractère central de l'espace dont Arnaud parlait au début. Et c'est une économie qui se suffit à soi-même. On a pu parler de l'économie monde américaine avant la guerre de sécession. Parce que, à part l'exportation de coton, il y a une forme d'économie monde. La Méditerranée est une forme d'économie monde. On peut en trouver beaucoup. Et économie monde, du coup, il va généraliser cette idée-là. L'économie monde, c'est un espace géographique qui n'est pas homogène, mais qui oppose un centre et une périphérie, d'où là encore des logiques possibles de formation de profit. Et cette caractéristique, selon lui, est la meilleure façon de décrire ce qu'est l'économie du monde à l'époque moderne. Donc non pas une économie du monde, mais un ensemble d'économies monde.
Et on le voit, cette réflexion a beaucoup animé Braudel jusqu'à la fin de sa vie. Il retranscrit 3 conférences données à l'université Johns Hopkins en 1976 et qui seront publiées sous la forme d'un ouvrage intitulé « La dynamique du capitalisme » qui, pour le coup, il faut le souligner, est assez court par rapport aux autres ouvrages dont on a fait mention tout au long de cette émission et qui est donc publié en 1985. Un ouvrage dans lequel il revient justement sur le travail que lui a demandé « Civilisation matérielle, économie et capitalisme ». Il le dit, ce livre m'aura posé beaucoup de problèmes en raison de l'énorme masse documentaire à saisir et parce que l'économie en soi, cela n'existe évidemment pas. Ce sera le mot de conclusion. Merci infiniment à tous les deux, Jean-Yves Grenier et Arnaud Esquéré.
Merci.